Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir. Romain Oswin.
Lundi 16 septembre, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est parti pour la session soirée de l'information sur RFI pendant 3 heures. Les temps forts à venir, le débat du jour. Alors que l'actualité politique est forte, évidemment, en France, dans l'attente de la nomination d'un gouvernement, on posera la question, est-ce que la France est de droite ou de gauche? De droite, affirme le baromètre annuel de l'humanité, publié en fin de semaine dernière. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et puis, quid de la France qui ne vote pas? Elle est importante. Réponse à suivre donc dans 30 minutes avec nos invités. 18h10 TU, le décryptage d'Anne Corpé en Iran ce soir, 2 ans après la mort de Mahsa Amini pour un voile mal ajusté. Est-ce que le mouvement de révolte est toujours là, malgré la répression? 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition, Alexis Guilleux, qui sera aux manettes ce soir, 19h10 TU, enfin, votre session reportage dans Accent d'Europe, illustration de la cure d'austérité de Volkswagen sans précédent en Allemagne. Enfin, le grand reportage consacré aux super-héros made in Nigeria. Voilà le programme, mais pour l'heure, c'est le grand journal du soir. Bonsoir Stéphane Genest.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une, le suspect dans la tentative d'assassinat présumé contre Donald Trump, qui a été entendu par les enquêteurs.
Première comparution devant un juge fédéral en Floride pour lui. Il est accusé de tentative d'assassinat à l'encontre du candidat républicain à la présidentielle de novembre. On est en ligne avec notre correspondant dans cet état du sud du pays. Coup de théâtre à Bruxelles. Le français Thierry Breton a claqué la porte de la Commission européenne. Il se dit désavoué par la présidente Ursula von der Leyen. L'Élysée propose de le remplacer par Stéphane Séjourné. Au sommaire également, de nouvelles grâces présidentielles en Biélorussie et au moins 15 morts en Europe centrale après le passage dévastateur de la tempête Boris.
Et puis dans un quart d'heure, toute l'actualité sportive, évidemment dans RFI Soir, le football et cette nouvelle recrue pour l'Olympique de Marseille, le français Adrien Rabiot qui est sur le point de signer avec le club phocéen. Alors donc évidemment, c'est la grande question ce soir, Stéphane Genest. Que s'est-il passé près de la résidence de Donald Trump en Floride?
Le candidat républicain à la présidentielle aux États-Unis a une nouvelle fois échappé à une tentative d'assassinat. C'est la deuxième en 2 mois. Un homme a été maîtrisé alors qu'il s'était approché du golfe de sa propriété. C'est le dossier du journal. Avec vous, David Thompson, correspondant de RFI en Floride. Bonsoir, David.
Bonsoir.
Alors, Donald Trump accuse, lui, les démocrates. Il estime que le tireur présumé aurait été incité à agir en raison des attaques lancées contre lui par la campagne de Kamala Harris.
Oui, avec un communiqué au vitriol de Donald Trump à l'instant, qui dénonce sur Twitter la rhétorique, les mensonges, les fausses déclarations faites de la camarade Kamala, comme il la surnomme lors du débat télévisé truqué, dit-il. À cause de cette rhétorique de la gauche communiste, poursuit Trump, les balles fusent et la situation ne va faire qu'empirer, dit-il. Ce discours est repris en boucle sur toutes les antennes par ses alliés. Cette rhétorique qui présente Donald Trump comme une menace contre la démocratie est irresponsable. Les démocrates doivent réfléchir aux conséquences de leur discours, déclare Lauren Lee, élue de Floride à la Chambre des représentants sur Fox News. La famille de Donald Trump pointe, elle aussi, la responsabilité de la campagne Harris. Sur une photo, son fils aîné, Don Jr., remarque un autocollant Biden-Harris sur le pare-choc de la voiture du tireur présumé. Il est vrai que sur les réseaux sociaux, il accusait lui aussi le candidat républicain d'être une menace contre la démocratie.
Ce tireur présumé, David, qui comparaissait ce matin pour la première fois devant le tribunal de West Palm Beach, c'est en Floride.
Oui, menottes aux mains et aux pieds. Ryan Ross, c'est son nom, s'est vu notifier ses 2 premiers actes d'inculpation fédérale pour infraction à la législation sur les armes. Le suspect avait en effet un casier judiciaire et le numéro de série du fusil d'assaut AK-47 abandonné dans sa fuite avait été effacé. Des infractions mineures, mais ce n'est bien sûr qu'un début. D'autres inculpations beaucoup plus graves sont attendues contre lui, contre celui que le FBI accuse de tentative d'assassinat contre Donald Trump, un suspect qui se montre peu collaboratif avec les enquêteurs pour l'instant. Sa prochaine comparution est prévue la semaine prochaine.
Et donc à ce stade, David Thompson, que sait-on de son profil et des motivations?
Sur les réseaux sociaux, cet ancien ouvrier du bâtiment, originaire de Caroline du Nord, affiche clairement son hostilité à Donald Trump. Ryan Ross milite activement pour l'Ukraine. Il s'est d'ailleurs rendu à Kiev en 2022 pour participer à des manifestations de soutien de l'armée ukrainienne. Il a même tenté de recruter des volontaires pour combattre sur place. Dans une interview donnée à Newsweek Romania depuis Kiev en 2022, il qualifie la guerre en Ukraine de combat du bien contre le mal et sur Twitter, il se dit prêt à mourir pour pour cette cause.
Le dossier du journal avec David Thompson, correspondant de RFI aux États-Unis en direct avec nous. Merci David.
Et on évoquait justement, Stéphane Jeunesse, les services de sécurité américains, leur responsabilité, font débat dans la tuerie de l'école d'Uvalde au Texas il y a 2 ans.
C'est la pire fusillade qui ait jamais connu une école dans cet état. 19 enfants, 2 enseignants tués, 2 policiers. Les premiers arrivés sur le lieu comparaissaient ce lundi devant la justice de l'État pour avoir tardé à appréhender le tireur. Les policiers fédéraux présents aussi sur place le jour de la fusillade reconnaissent de leur côté qu'ils ne sont pas préparés à ce genre d'événement à Blajonaïdi.
Avec son subalterne Adrian Gonzalez, Pete Arredondo est le premier policier arrivé sur place le jour du drame. La justice leur reproche tous deux de ne pas avoir attaqué, distrait et retardé le tireur afin de l'empêcher d'entrer dans d'autres salles de classe et faire d'autres victimes. Des accusations trop vagues selon leurs avocats et qui surtout font porter au seul policier la responsabilité de la tragédie. 7 longues minutes se sont écoulées avant que le tireur ne soit tué par des adjoints du shérif et des agents de protection des frontières. Même si ce genre d'intervention ne font pas partie de ses missions, l'Agence de protection des frontières fait aujourd'hui son mea culpa. Dans un rapport, elle estime que ses agents ne sont pas préparés de manière adéquate à faire face à un tireur actif, ni du point de vue des équipements pour forcer les portes, ni pour coordonner son action avec la police locale. L'absence de chaîne de commandement claire le jour de la catastrophe a conduit à une mauvaise prise en charge des blessés. Par exemple, l'agence appelle à se doter d'une doctrine et d'une formation complète de ses agents pour parer à de futurs drames.
Blajonaïdi, par ailleurs, aux États-Unis, Boeing toujours dans la tourmente. Le constructeur fait face à une grève qui paralyse la production du 737 Max. L'avionneur a dû prendre des mesures pour préserver ses liquidités devant ce mouvement social, parmi lesquels le gel des recrutements et des mesures temporaires de chômage technique dans les prochaines semaines. Et puis, c'en est fini pour l'armée américaine au Niger. Les autorités ont annoncé tout à l'heure avoir achevé le retrait des soldats et du matériel du pays, conformément aux exigences du régime au pouvoir.
RFI 19h07 à Bruxelles, il y a du changement, Stéphane Jeunesse, à la Commission européenne.
Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a annoncé son départ de la Commission ce lundi. Il se dit désavoué par la présidente Ursula von der Leyen, qui a selon lui demandé à la France de retirer son nom à la liste des candidats. Exit Thierry Breton au profit de Stéphane Séjourné. L'Élysée a proposé ce nom, le choix du ministre démissionnaire des Affaires étrangères immédiatement critiqué par l'opposition Valérie Gasse.
Macron envoie son clone à la Commission sans consulter personne et au mépris du vote des Français. C'est ainsi que la députée européenne insoumise Manon Aubry a réagi sur X à l'annonce de la proposition de remplacer Thierry Breton par Stéphane Séjourné, actuel ministre des Affaires étrangères démissionnaire comme commissaire européen. Une critique partagée par d'autres responsables politiques comme le communiste Yann Brossat, le LR Julien Aubert ou encore le député européen RN Thierry Mariani qui évoque sur X l'art de recaser les petits marquis déchus de la Macronie. En cause, la proximité de Stéphane Séjourné avec Emmanuel Macron, ancien conseiller politique du président et actuel secrétaire général de Renaissance. Il a été placé par le chef de l'État à la tête du Quai d'Orsay lors de la formation du gouvernement Attal. L'Élysée justifie pour sa part le choix de Stéphane Séjourné par son parcours, ancien député européen et président du groupe Renew au Parlement de Strasbourg, ce qui le rend directement opérationnel à Bruxelles. La présidence affirme aussi que cette décision a été prise en accord avec Matignon pour couper court aux critiques.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI.
Au Proche-Orient, la prise de parole du nouveau chef du Hamas.
Yahya Sinwar qui affirme que le mouvement palestinien était prêt pour une longue guerre d'usure contre Israël. Déclaration dans un message aux rebelles houthis du Yémen qui ont mené ce dimanche une rare attaque aux missiles sur le centre d'Israël. Et c'est dans ce contexte que le journal israélien Haaretz révèle que l'armée de l'État hébreu recrute parmi les 30 000 demandeurs d'asile africains présents sur son territoire avec un accord combattre pour Israël afin d'obtenir une résidence permanente dans le pays. Explication à Jérusalem, signé Sami Bourlifa.
Tout commence le 7 octobre 2023 lors du massacre perpétré par le Hamas en Israël. Près de 1200 morts ce jour-là, parmi eux 3 demandeurs d'asile. Par la suite, le pays plonge dans le chaos. Il lance une guerre dévastatrice contre le Hamas et les Gazaouis. Près d'un an plus tard, plus de 41 000 Palestiniens tués, majoritairement des femmes et des enfants. Côté israélien, tout s'arrête. Une importante partie de la population est envoyée à l'armée. Cette mobilisation générale porte un coup d'arrêt brutal à l'activité économique. Les travailleurs étrangers quittent aussi massivement le territoire devenu trop dangereux. Ce sont alors des demandeurs d'asile qui se portent volontaires pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Certains expriment même le souhait de contribuer directement à l'effort de guerre. Émerge alors l'idée de les enrôler pour les envoyer à Gaza. 2 semaines d'entraînement, puis le front. C'est la naissance d'un groupe de mercenaires engagés dans une guerre effroyable et à qui on fait miroiter l'obtention d'une résidence permanente en Israël. À ce jour, aucun demandeur d'asile africain ne l'a encore obtenu, rapporte le journal Haaretz. Sami Bourfi à Jérusalem, RFI.
L'Iran commémore ce lundi le 2e anniversaire de la mort en détention de Mahsa Amini, cette jeune kurde de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour non-respect du port du voile. Et c'est dans ce cadre que le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, a promis d'œuvrer afin que la police des mœurs ne dérange pas les femmes qui ne portent pas le voile obligatoire en public. Fin de citation.
Voilà, et que se passe-t-il en Iran 2 ans après la mort de Mahsa Amini? Ce sera le sujet du décryptage d'Anne Corpé. Rendez-vous dans 1 heure tout pile sur Radio France Internationale. Pour l'heure, c'est le grand journal du soir avec Stéphane Genest. De nouvelles grâces présidentielles en Biélorussie, Stéphane.
Ces 2 derniers mois, Romain, les autorités biélorusses ont gracié à plusieurs reprises des personnes détenues pour avoir protesté contre le pouvoir. À début septembre, Alexandre Loukachenko avait gracié 30 prisonniers politiques, 30 autres mi-août. Ce lundi, le dirigeant biélorusse a gracié 37 personnes emprisonnées pour extrémisme, terme généralement employé pour qualifier les opposants à Nissa El-Jabri.
Comme la fois précédente, l'annonce des libérations n'est pas assortie du nom des concernés. Comme la fois précédente, la Biélorussie affirme que tous se sont, je cite, « repentis » et ont fait des demandes de grâce. Elle qualifie cette décision sur le site internet de la présidence de, je cite, « nouveau geste humain de l'État envers ceux qui se sont égarés ». Ceux qui se sont égarés comme des Minsk seraient encore, selon l'ONG de défense des droits humains Viasna, 1300 derrière les barreaux. Quelques-uns parmi tous ceux qui ont protesté contre la réélection d'Alexandre Loukachenko en août 2020, une élection jugée frauduleuse par l'opposition. Figure de ces cortèges inédits par leur ampleur depuis l'indépendance du pays en 1991, Maria Kolesnikova, on ne sait plus rien d'elle à ce stade, sauf un état de santé en prison décrit comme alarmant par ses proches. Ils indiquent qu'elle a notamment perdu beaucoup de poids. Les conditions de détention sont considérées comme particulièrement éprouvantes en Biélorussie et des cas de torture sont documentés. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Les contrôles des frontières renforcés en Allemagne depuis ce matin, qu'il s'agisse de celles avec la France, de la Pologne ou encore de la République tchèque, toutes les frontières sont concernées. Berlin explique cette décision pour faire face aux menaces de terrorisme islamiste et de la criminalité. Cela alors que quelques semaines après une série d'attaques terroristes commises par des étrangers sur le sol allemand.
Et puis l'Europe centrale qui pense ses plaies après le passage de la tempête Boris.
Après la pluie, après le vent et les torrents de boue, place maintenant au bilan. Boris, qui a tué au moins 15 personnes et qui a fait de nombreux sinistrés, les dégâts sont encore difficiles à estimer. Parmi les victimes, 3 sont recensées en Autriche. Correspondance à Vienne, signé Isorias pour RFI.
2 personnes ont été retrouvées mortes ce lundi, piégées dans leur maison par les eaux dans 2 communes de Basse-Autriche. Ces décès s'ajoutent à celui d'un pompier mort dimanche lors d'une intervention dans cette région où la situation reste difficile. Plus de 1800 habitations ont déjà été évacuées. Des milliers de personnes sont privées d'électricité actuellement. Des centaines de soldats de l'armée fédérale sont déployés en Basse-Autriche pour pouvoir prêter assistance, car la situation reste préoccupante, notamment en raison du risque de rupture de barrages. La gouverneure de la région a renouvelé son appel aux habitants à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le trafic ferroviaire reste interrompu dans une partie de l'Autriche et de nombreuses routes demeurent fermées, tout comme plusieurs lignes de métro partiellement fermées à Vienne. Dans la capitale, les pompiers sont intervenus 1300 fois ces dernières 24 heures. Le canal du Danube a débordé dimanche, tout comme la rivière Vin, entraînant des dégâts matériels et l'évacuation de plusieurs habitations. La vigilance reste donc de mise ce lundi, y compris dans d'autres régions du pays, notamment la Haute Autriche et le Burgenland, où les niveaux d'eau risquent d'augmenter. Isorias, Vienne, RFI.
Après l'émotion suscitée par les révélations d'agressions sexuelles à l'encontre de l'abbé Pierre, l'Église de France est poussée à réagir. Le président de la Conférence des évêques de France réaffirme sa volonté d'aider les victimes et de contrer les accusations de silence depuis des années. Dans une tribune publiée ce lundi dans le journal Le Monde, il affirme que quelques évêques étaient au courant, dans le milieu des années 50, de comportements graves de l'abbé Pierre à l'égard des femmes.
Dans l'actualité française, française ce lundi également. L'enseignante accusée d'avoir frappé une élève de 3 ans à Paris est en garde à vue.
Les images largement diffusées et partagées sur les réseaux sociaux avaient suscité une certaine indignation. La professeure des écoles a d'ailleurs été immédiatement suspendue. Les autorités ont promis que la lumière serait faite sur ce qu'il s'est passé. L'enquête, elle, suit donc son cours, Olivier Sherman.
L'enseignante se trouve dans les locaux du commissariat du 15e arrondissement de Paris. Elle a été convoquée et s'est donc rendue ce lundi matin avec son avocat devant les policiers. Cette garde à vue de droit commun peut durer jusqu'à 48 heures. Une enquête préliminaire a été ouverte pour des faits qualifiés à ce stade de violence sur mineur de 15 ans, sans incapacité, à la suite d'une plainte déposée par les parents de la petite fille. La scène, filmée, qui continue de susciter une vague d'indignation, date du 5 septembre, soit 3 jours après la rentrée scolaire. Sur la vidéo, on voit l'enseignante taper dans le dos de cet élève en larmes. Celle-ci tombe par terre, puis court se réfugier près de la porte. La maîtresse se saisit alors d'un verre rempli d'eau et en jette le contenu sur l'enfant. Vendredi dernier, une deuxième plainte a été déposée contre l'enseignante par une autre parent d'élève. Pour des faits remontant à 2012, il s'agit d'une plainte pour violence à l'encontre d'un garçon alors âgé de 3 ans.
Le récit d'Olivier Sherman, chef du service France d'RFI. C'est ainsi que se referme ce journal à 19h15 ici à Paris. Mais rassurez-vous, RFI Soir continue avec Romain Ozoui.
Merci beaucoup Stéphane Jeunesse pour ce grand journal du soir. Il est 17h16 en temps universel. Et dans les prochaines minutes, on appellera Julie Conant du journal La Croix, qui rentre d'un reportage le long de l'Euphrate, l'Euphrate fleuve mythique, qui subit encore les conséquences de la présence djihadiste du groupe État islamique. Mais des équipes de l'ONG Handicap International sont sur place pour dépolluer le site. Les enjeux sont immenses pour la population. Et puis direction le Pakistan, qui pourrait perdre des millions de dollars après l'instauration d'un pare-feu national, en d'autres termes, Internet qui est régulé, qui est contrôlé, affirment les médias locaux. Pour l'heure, ce sont les sports sur RFI. Bonsoir Baba Cardiara.
Bonsoir Romain.
Allez, on débute avec le football, l'Olympique de Marseille, qui savoure son gros coup, la signature imminente d'Adrien Rabiot.
Là, les dirigeants phocéens ont attendu la clôture du marché des transferts pour réaliser leur plus belle opération, aussi inattendue que commentée depuis hier soir. Formé au Paris Saint-Germain, faut-il le rappeler, l'international français est attendu ce lundi soir à Marseille, où après une visite médicale demain matin, il devrait s'engager avec l'OM pour 2 ans. À 29 ans et après 5 saisons à la Juventus, Marseille peut rêver en grand avec ce joueur, le Rabiot. Qu'analyse pour nous Hervé Penaud, le consultant de Radio Foot International, au micro d'Olivier Pron.
Énorme coup de l'OM. Personne n'imaginait un joueur de ce calibre-là, qui était convoité par les plus grands clubs, donc avec salaire qui va avec, être capable de revenir à l'OM. L'OM qui est quand même, allez, on va dire, de la deuxième division par rapport aux grands d'Europe. Alors aujourd'hui, rien à dire, Longoria a réussi un immense coup. Grâce à Mehdi Benatia, qui tout de suite a senti, a flairé la bonne affaire et s'est dit, le directeur sportif, il y a quelque chose à faire. Peut-être, on va discuter et puis on ouvrira des portes et puis si la porte peut-être ne se refermera pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, ça paraît assez incroyable parce que de revoir un joueur qui voulait jouer la Ligue des Champions, arriver dans un club où il ne jouera rien du tout en termes européens, je veux dire. Et puis on connaît son passé de Parisien. Il va redécouvrir ou découvrir les sifflets permanents des supporters parisiens. Et puis on attend le premier classico qui devrait être très 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 chaud pour lui.
Hervé Penaud et Adrien Rabiot recroisera son ancien club le 27 octobre prochain à Marseille avant de se rendre le 16 mars au Parc des Princes pour des retrouvailles forcément explosives avec ses anciens supporters.
Ça c'est certain. En tennis, on ne reverra plus Ons Jabeur sur les courts cette année.
La Tunisienne a dit stop, toujours perturbée par sa blessure à l'épaule. Elle doit faire une croix sur les derniers tournois de l'année. La conclusion d'une saison tronquée et ratée même pour celle que l'on surnomme en Tunisie la ministre du bonheur mais qui a perdu le sourire. Éric Mamry.
À 30 ans, Ons Jabeur connaît le plus important coup d'arrêt de sa carrière. Depuis son arrivée sur le circuit professionnel en 2010, la joueuse de Monastir n'avait cessé de progresser au classement, tutoyant les sommets il y a 2 ans en atteignant la 2e place mondiale. L'Afrique pensait alors avoir trouvé sa pionnière, celle qui allait enfin lui offrir un titre du Grand Chelem côté féminin. Mais la Tunisienne échouait à 3 reprises, à Wimbledon et à l'US Open en 2022, puis à nouveau à Wimbledon l'année suivante pour ce qu'elle a qualifié de défaite la plus dure de sa carrière. carrière. Une douleur à l'âme qui a précédé de nombreuses douleurs physiques. Son genou, pourtant opéré, l'a de nouveau handicapé cette année, tandis qu'une blessure à l'épaule polluait sa deuxième partie de saison. Conséquence, Ons Jabeur n'a pu disputer que 14 tournois en 2024 pour des résultats faméliques. Seulement 16 matchs gagnés avec comme meilleure performance un quart de finale à Roland-Garros. Aujourd'hui 22e au classement mondial, la Tunisienne préfère prendre le temps de se soigner totalement, donnant rendez-vous à ses supporters en janvier en Australie.
Éric Mamrut, par ailleurs, Ons Jabeur a ajouté qu'elle allait également consacrer ce repos forcé à des œuvres humanitaires.
Eh bien, on suivra tout cela, évidemment, du côté de Radio France Internationale. Merci beaucoup, Babacar Diarra, pour ce journal des sports, 19h19, ici à Paris. Cela fera bientôt 7 ans que la ville de Raqqa en Syrie a été libérée des djihadistes du groupe État islamique. Mais les traces sont encore visibles et elles mettent en danger la population. Bonsoir Julie Conan.
Bonsoir.
Chef adjointe du service Monde du journal La Croix, vous revenez d'un reportage dans la région consacré à la dépollution d'un fleuve mythique qui se trouve au sud de Raqqa, c'est l'Euphrate. Alors quand on parle de dépollution, on parle des nombreux, des très nombreux explosifs qui s'y trouvent. Vous avez suivi pour cela une équipe de l'ONG Handicap International. Ma première question, comment cette équipe procède? Comment est-ce qu'on parvient finalement à identifier ce qu'il y a sous l'eau?
Alors, elle procède déjà avec des signalements de la population et des riverains qui leur disent avoir assisté en fait à soit des jets de projectiles dans l'eau, soit qui ont constaté des restes explosifs de guerre dans les eaux sur les rives de l'Euphrate, d'une part. Et d'autre part, les démineurs font appel à un drone sous-marin, notamment, qui leur permet de distinguer ces munitions entre les roseaux, entre les cailloux, etc., pour prendre le moins de risques possible pour eux et déterminer la nature et la dangerosité de cette contamination en amont.
Et comment ensuite ils interviennent pour justement récupérer ces restes d'explosifs ?
Alors, ce sont des équipes, d'une part, ce sont des plongeurs qualifiés, c'est-à-dire ce sont des démineurs et des plongeurs qui ont donc une surqualification, si j'ose dire. Et une partie de l'équipe sont également des grimpeurs, mais font surtout de la descente pour descendre le long des rives et atteindre ces zones contaminées. Donc, c'est tout un ensemble de compétences que peu de démineurs ont et qu'ils mettent à profit là, dans l'Euphrate.
Et alors, quel type d'explosifs sont retrouvés et est-ce que beaucoup d'explosifs sont retrouvés?
Alors, il y a des quantités invraisemblables d'explosifs. C'est-à-dire que là, en un mois, par exemple, les équipes ont remonté jusqu'à 500 restes explosifs de guerre. Donc, on parle de bombes, on parle de gilets explosifs, on parle aussi d'outils piégés, de rideaux piégés. En fait, on comprend la folie et l'ingéniosité, si j'ose dire, malgré tout, de Daesh pour détruire, pour semer la terreur. Et on trouve également des bombes conventionnelles utilisées par la coalition internationale pour frapper Daesh.
Oui, c'est ça. Ces découvertes sont finalement autant d'enseignements sur les méthodes des djihadistes. Un fleuve comme l'Euphrate, quel est son enjeu pour la population? Et donc, quel est l'enjeu finalement de cette dépollution?
Dans la région de Raqqa, donc dans le nord-est syrien, c'est une région déjà extrêmement agricole. Donc il y a un enjeu d'irrigation qui est très important. Pour les populations déplacées, pour les riverains, c'est aussi c'est tout à la fois une fontaine, une piscine, c'est-à-dire que c'est un fleuve essentiel quand il y a des températures très très élevées comme actuellement l'été. C'est aussi la question de la pollution de ces eaux pose des problèmes très très importants en termes de santé, puisqu'il y a des nouvelles pathologies qui sont apparues, notamment chez les enfants, qui commencent à peine à être diagnostiqué. Il y a encore un problème de statistiques, mais les habitants voient très bien que les eaux, et les professionnels de santé voient très bien que la qualité des eaux contaminées par les matières chimiques de ces armes crée de nouvelles maladies, et c'est très inquiétant. Oui. Et enfin, il y a également la question du commerce, puisque énormément de bombes en fait ont été visées à des infrastructures comme des ponts, et la décontamination permet de construire de reconstruire de nouvelles infrastructures essentielles pour le commerce et donc la vie à nouveau de cette région.
Un fleuve comme l'Euphrate, c'est essentiel effectivement pour les habitants. Ils s'y baignent, ils s'y lavent. Comment est-ce qu'ils sont sensibilisés aux dangers et est-ce qu'il y a des campagnes d'information sur cette décontamination qui est menée par différentes équipes ?
Alors oui, tout à fait. Il y a des cours de sensibilisation pour bien leur expliquer que quand on trouve une bombe, il faut le signaler à des ONG et évidemment pas la jeter dans l'eau. Mais ils nous expliquent que c'est le réflexe des trois quarts des gens dans un premier temps de se dire « je trouve un reste explosif de guerre et je vais le jeter dans l'eau pour s'en débarrasser ». Et c'est un travail de longue haleine que mènent les équipes d'handicap international qui est tout à fait essentiel.
On parle de l'Euphrate, hein, ce fleuve essentiel, mais il n'y a pas que l'Euphrate, évidemment, qui est miné, qui possède encore des restes d'explosifs hérités de ce qui a pu se passer il y a plusieurs années avec la présence des djihadistes.
Oui, tout à fait. Alors, donc, si on reste dans le domaine aquatique, il y a les canaux de l'Euphrate où vont se baigner beaucoup les enfants et où il y a des enfants qui sont tués ou blessés assez régulièrement. Mais au sein même de la ville, il y a encore énormément d'immeubles qui sont contaminés et les démineurs qui sont syriens vivent dans ces immeubles et donc procèdent également à la décontamination de ces bâtiments où parfois, et c'est un étage, le troisième étage, qui a reçu une bombe ou qui a encore des restes explosifs de guerre. Donc c'est également un travail qui est mené dans la ville de façon un petit peu plus traditionnelle, j'allais dire, mais avec les mêmes compétences de grimpeurs pour se hisser à un étage inaccessible afin que les populations puissent regagner un habitat sûr.
Syrie, lavé, l'Euphrate, de la noirceur des bombes, c'est votre article à découvrir ce mardi dans La Croix, évidemment, sur votre site internet, Julie Codan. Merci beaucoup.
Merci.
Les enjeux d'Internet dans un pays, direction à présent le Pakistan. Le Pakistan qui a mis en place un pare-feu national. L'objectif affiché, c'est de réguler le contenu et les plateformes des médias sociaux. Plutôt les contrôler, affirment les médias locaux. Ainsi, X, anciennement Twitter, a été bloqué depuis les élections de février qui ont vu l'ancien Premier ministre emprisonné Imran Khan remporter le plus grand nombre de sièges. Les conséquences de ce pare-feu Internet pourraient être désastreuses pour l'économie du Pakistan avec la perte annoncée de 300 millions de dollars. Reportage à Lahore, dans l'est du Pakistan. Reportage signé Sonia Ghazali.
Il est plus de minuit, à Lahore, Shafiq Vins et ses deux associés sont à la tâche devant leurs ordinateurs. Ils sont assistants informatiques pour des centres d'appels basés aux États-Unis et en Europe. 10 minutes seulement après qu'ils ont pris leur poste, un message d'erreur s'affiche sur leurs écrans. Internet a été interrompu.
La connexion sécurisée et le protocole de transfert de fichiers ont été déconnectés. D'habitude, cela se produisait une fois par semaine ou tous les 3 ou 4 jours. Mais depuis juillet, cela se produit 10 à 15 fois par jour.
Shafiq Vins a perdu 30% de ses clients au cours des dernières semaines en raison des interruptions constantes du réseau Internet.
J'ai créé cette entreprise en avril 2023 et nous avons connu une croissance jusqu'à récemment. Depuis le mois dernier, elle s'est arrêtée à cause des perturbations de connexion. Je crains que d'ici l'année prochaine, nous ne devions déménager dans un bureau plus petit ou travailler à distance depuis notre domicile.
Les freelances qui travaillent sur Internet payent un lourd prix. Certaines plateformes qui mettent en lien les clients et les travailleurs indépendants ont suspendu temporairement les comptes de milliers de Pakistanais. Omer, qui fait du marketing numérique, en a fait l'expérience.
Le site Fiverr a envoyé une notification à nos clients pour les informer que nous n'étions pas disponibles pour une nouvelle mission. Nous ne gagnons pas beaucoup d'argent et nous ne recevons pas d'aide du gouvernement, ce qui est frustrant et déprimant.
Plusieurs multinationales au Pakistan, lasses des interruptions Internet, ont délocalisé leurs bureaux à l'étranger. Selon les médias locaux, l'installation d'un pare-feu national destiné à contrôler et à réguler le web est à l'origine de la dégradation d'Internet. Le gouvernement nie, mais ne donne aucune réelle explication, regrette Nirat Dad. Elle est directrice de l'ONG Digital Rights Foundation.
Nous sommes un pays démocratique, non ? Nous ne sommes ni la Chine ni la Russie. Nous ne sommes pas l'un de ces pays où on installe des systèmes pare-feu. En fait, il nous faut être très clair sur la direction que nous voulons prendre en tant que pays, puis être clair et transparent vis-à-vis de nos concitoyens en leur disant que c'est la direction que nous adoptons et que c'est là que nous allons.
Les autorités pakistanaises ont franchi un pas, estime Oussama Khalidji, directeur d'un organisme de surveillance d'Internet à Islamabad.
Cela montre vraiment que l'espace de dissidence et d'exercice des droits constitutionnels démocratiques dans ce pays, tels que la liberté d'expression, le droit à la vie privée, le droit à l'information et le droit à la subsistance, se rétrécit de plus en plus.
Oussama Khalidji met en garde contre une fuite des cerveaux qui s'accentuerait. Plus de 100 000 personnes qualifiées auraient déjà quitté le Pakistan au cours de ces dernières années en raison de la crise économique. Sonia Ghazali, de retour de Lahore, Islamabad, RFI.
Il est 19h, bientôt 29 minutes ici à Paris. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans une minute, c'est le débat du jour. On posera cette question. Est-ce que la France est de droite ou de gauche? Restez avec nous.
Priorité santé.
Pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde, vous informer sur vos droits, vous éclairer sur la prévention, les traitements et les moyens d'y accéder, Priorité Santé vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Pour participer, contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Les couleurs du son et RFI Talent présente Naïssem Jalal en concert gratuit. Retrouvez la flûtiste-vocaliste franco-syrienne en duo avec la violoncelliste Lina Belaïd dans le cadre du festival Si rien n'est fait à Paris le 20 septembre à 21h. Plus d'infos sur lesarchescitoyennes.fr.